cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 13 mai 1993.
On avait commencé la dernière fois à voir l'aspect de la croissance du « je suis ». Oui, on a vu la croissance et le conditionnement par le fait même. Les trois aspects de l'absolu qui sont cette conscience, cette expérience que nous avons de notre autonomie, du « je suis » dans l'ordre de l'être, de la recherche de la vérité et du dépassement de nous-mêmes par l'amour. Et ceci se fait dans une conquête constante. Il y a un certain absolu dans ces trois aspects dont nous devons prendre conscience de plus en plus. Il y a quelque chose de limpide, de lumineux dans cette expérience interne, mais impliquant aussi le point de vue du jugement d'existence. Il y a quelque chose de lumineux dans cette expérience. Et nous voyons maintenant notre conditionnement. Notre conditionnement dans l'ordre pratique, cette sagesse pratique qui est la prudence, c'est la quatrième sagesse dont on ne parle pas puisqu'on ne prend que les trois, mais la quatrième c'est la sagesse pratique qui est la prudence. Subalternée à la philosophie. Si elle veut être réalisée, et ce dépassement dans l'ordre de l'amour. Je crois ça très important de bien comprendre dans cette perspective métaphysique du « je suis » de la place exacte de la psychologie. Et c'est la prudence qui nous permet de le comprendre. C'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, en raison même de l'éducation que la plupart des hommes reçoivent, qui est une éducation très spéciale, puisque à cause de Freud et du freudisme, on a supprimé l'autorité paternelle et l'autorité maternelle. Ce qui fait que la plupart ne savent pas ce que c'est que la prudence. Soyez loyal avec vous-même. Essayez de comprendre quel est le degré de prudence qui existe en vous. Qu'est-ce que c'est que la prudence dans votre vie? L'exercice prudentiel. Voyez, l'ordre que vous faites vous-même de votre journée quand vous êtes au désert. Parce que les autres jours, l'ordre est dicté. Supprimez la cloche, vous avez le désert. Mais il faut ordonner son temps d'une manière intelligente et avec amour. S'il n'y a plus la finalité de la recherche de la vérité et un véritable amour à l'égard d'une personne humaine, à l'égard des personnes humaines, vous ne pouvez plus ordonner votre vie, gérer votre capital d'énergie, de conquête, réfréner vos passions du concupiscible. Il faut reprendre l'image ici de Platon. Vous savez bien, les chevaux qu'on dirige, l'attelage, on est un char en nous, puisqu'on a l'irascible, le concupiscible au point de vue affectif. Il y a ces vertus cardinales qui font partie de notre personne. Un être humain qui n'aurait aucune vertu cardinale, je crois que sa personne ne peut pas émerger. C'est le conditionnement. Alors, vous voyez, c'est cela qu'il faut bien comprendre. Il y a un conditionnement finalisé qui est la vertu, qui sont les vertus cardinales. C'est un conditionnement. Nous sommes conditionnés par notre concupiscible, par notre irascible, par le milieu dans lequel on est. On est conditionné par cela. On est conditionné par les relations personnelles du milieu dans lequel on se trouve. Et ce conditionnement devient humain, donc finalisé, grâce aux vertus. Et ces vertus réclament pour nous cette lucidité de la prudence. C'est sûr, ce n'est pas cela qui structure notre personne humaine, mais c'est le fondement. C'est la païdéia, c'est-à-dire l'éducation constante que nous devons faire sur nous-mêmes. aujourd'hui des quantités de personnes considèrent impossible la vertu de chasteté. C'est monstrueux d'en parler. J'en ai encore eu des échos. Oui, une famille dont les parents, on peut dire, représentent une tradition chrétienne très nette. La génération qui suit, c'est-à-dire les jeunes qui ont 29 ans, 30 ans, disent ouvertement la chasteté, c'est impossible. Ils ont été baignés, et c'est quelqu'un qui me rapportait ça et qui me disait, si les parents entendaient ça, c'est intéressant de constater ça au point de vue philosophique, c'est l'emprise psychologique. Il faut dire les choses comme elles sont, il faut appeler les choses par leur nom. C'est que la détermination devient le conditionnement. La disposition détermine. Au niveau passionnel, la chasteté est impossible. Au niveau humain, elle réclame la vertu de chasteté. Elle réclame la vertu de tempérance et de chasteté. Alors, une question qui serait très intéressante à se poser, parce que ça fait partie de tout ce conditionnement dans lequel on est. Peut-on avoir la vertu de tempérance si on n'a pas la vertu de chasteté? Et voyez, la vertu de tempérance, s'il n'y a pas la vertu de tempérance, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura très vite l'alcoolisme et toutes les maladies qui s'ensuivent. On n'aura plus de domination sur le concupiscible. Se tiennent. Ça, je crois qu'on ne peut pas avoir la vertu de tempérance s'il n'y a pas la vertu de chasteté. C'est distinct comme vertu, c'est sûr. C'est distinct, mais ça se tient. Les vertus cardinales sont connexes. S'il n'y a pas la tempérance, très vite, il n'y aura plus la justice. Mais quand vous voyez aujourd'hui le désordre de la justice, de la psychologie d'un vertueux. seule manière qu'ils peuvent se retrouver, c'est dans la prudence. Et tous les divorces proviennent de ça, vous savez. Radicalement, c'est ça. Comment voulez-vous que l'amitié puisse demeurer s'il n'y a pas la vertu? On ne peut pas demeurer. C'est impossible. Ça durera quelques années, et puis après, ça s'effrite. Et c'est la psychologie qui commande. Le mariage entre la psychologie de l'artiste et la psychologie de l'homme qui tend à être vertueux fait que très vite, on s'y dit, il vaut mieux se séparer. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre dans le « je suis », vous voyez. Parce que le « je suis » nous montre comment toute cette cathédrale de molécules qui est en nous doit se construire, doit s'ordonner intérieurement, d'une façon immanente, par le point de vue de la prudence. La prudence est une chose très étonnante. La petite sagesse immanente pour chacun d'entre nous. Donc, sagesse architectonique. Donc, l'architecture, si vous voulez, pour prendre l'architecture de cette petite cathédrale que nous sommes. Et cette architecture, elle se fait par la prudence. Alors, à ce point de vue-là, la prudence est quelque chose de très, très grand. Très beau, sagesse pratique. Qui réclame la justice, qui réclame la force, qui réclame la tempérance. Et si vous dites, oh, la tempérance, non, non, c'est pas la peine. La chasteté, c'est pas la peine. On est dans un monde qui ne peut plus être chaste. C'était bon pour le Moyen-Âge. Réflexion classique, l'âge des cathédrales. Aujourd'hui, c'est les autoroutes. Il n'y a pas de chasteté pour les autoroutes. Il y a des gendarmes au coin et des radars pour empêcher que ça aille trop vite. Mais les gendarmes et les radars, on arrive toujours à les dépister. Ça donne un petit peu de sens, d'habileté. Alors, vous voyez, c'est l'habileté qui remplace la vertu de chasteté. Là, qui remplace la vertu de prudence. Je crois qu'il faut voir ça dans le je suis. Il faut que notre je suis soit suffisamment lumineux dans la recherche de la vérité. Il y a une recherche de vérité pratique. Et la recherche de la vérité pratique, c'est la prudence. Dans le domaine des relations vis-à-vis du droit des autres. Dans le domaine de la nourriture, dans le domaine des instincts, dans le domaine des difficultés, des biens difficiles à acquérir, la force. Et je vous dis bien, il y a tout un ordre qu'on doit découvrir, toute une structure pratique, vous voyez, très différente de la vérité spéculative. Qui structure au niveau de l'être, là ça structure au niveau du bien, au niveau de la relation avec les autres. Il y a une question qui se pose et qu'on doit se poser au niveau prudentiel. Encore découvert au plan philosophique l'existence d'un être premier. Mais au point de vue de l'analyse que nous faisons dans l'ordre scientifique de la métaphysique, la structure de la personne humaine se situe avant la découverte de l'être premier. C'est très très important de dire ça, parce que là on lutte contre l'ontologisme de Descartes, de Malebranche, l'ontologiste de droite. c'est comme ceux qui disent que la morale n'existe que par le point de vue de la religion. Que la vertu de religion, que par l'adoration. Il faut dire que la personne humaine se structure par elle-même. Mais il est évident que la découverte de l'existence de Dieu, l'exigence de l'adoration et l'acquisition de la vertu morale de religion permet à la personne humaine d'avoir un état de perfection qu'elle n'a pas autrement. Ça, c'est très important. C'est un état de perfection. Mais la structure de la personne se fait antérieurement. Elle se fait au niveau métaphysique, pas au niveau théologie naturelle. Donc, on doit se poser la question. L'homme prudent, donc cette structure pratique de ma vie humaine, doit tenir compte des traditions religieuses. Je crois qu'il faut souligner fortement aujourd'hui que l'homme qui rejette toute tradition religieuse au nom du positivisme, du rationalisme, l'homme qui rejette toute tradition religieuse se met dans une situation au plan de vue humain et au point de vue pratique, donc au point de vue prudentiel, dans une situation d'imprudence. Je précise pour que vous voyez bien ça, c'est important ça, dans l'ordre pratique, parce que on voit aujourd'hui des personnes qui vous posent la question. C'est la position de Pascal, mais on doit reprendre un peu Pascal, parce qu'il y a un peu le jet. Quand Pascal dit, écoutez, hein, vous ne savez pas si Dieu existe ou n'existe pas, mais faites comme s'il existe. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Essayez, faites-le. Non, faites-le pas, parce que ça irrite les gens. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, oui, j'ai été baptisé, j'ai eu des parents profondément chrétiens, mais depuis que j'ai 16-17 ans, maintenant, je me repose la question, j'ai 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans. Dieu, est-ce qu'il existe ou pas? Je n'en sais rien au point de vue de mon intelligence. Mon intelligence est tellement prise par la science que je ne vois pas comment Dieu peut exister. Mais je vois qu'il y a des traditions religieuses, entre autres des traditions judéo-chrétiennes qui me semblent très sérieuses. La Bible, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des phrases dans la Bible que je ne comprends pas. Il faudrait l'expurger aujourd'hui, faire une Bible du XXe siècle. Ce serait mieux. Abordable aux savants. Tandis qu'elle n'est pas très abordable aux savants. Alors on pourrait la purger. Il faudrait qu'un groupe de catholiques intelligents, scientifiques, purge la Bible et fasse la Bible du XXe siècle. Et c'est à se poser. Encore, il y a 8 jours, on m'a posé la question comme ça. Et quelqu'un de très sérieux, positiviste, évidemment. Alors, il faut pouvoir répondre que je n'ai pas le droit, au point de vue prudence humaine, les traditions religieuses ne sont pas faites pour être dans un musée, c'est-à-dire pour être dans l'histoire des religions. On a une documentation merveilleuse aujourd'hui sur l'histoire des religions. Des dictionnaires c'est le musée des traditions religieuses. On est très intelligent pour ça. Et on a des musées extrêmement intéressants qui vous montrent toute la richesse qui existait dans certaines abbayes. Il y a les crosses qu'on garde, il y a les mitres qu'on garde, il y a les ornements religieux qu'on garde. Ça fait partie d'un musée religieux. Les traditions religieuses ne peuvent pas se contenter d'être dans un musée. Les traditions religieuses font partie d'un patrimoine humain. Alors, il le faut, au point de vue prudence. Et ceci fait partie du « je suis », de ma personne. Ma personne humaine n'est pas encore arrivée à découvrir personnellement la relation avec Dieu, avec le Créateur. Je n'ai pas la foi et la métaphysique chez moi est encore très très fragile, très embryonnaire. Mais je vis évidemment en face de chrétiens, de musulmans, en Dieu, dont les traditions sont très fortes par rapport à l'existence de Dieu. Est-ce que ces traditions religieuses suffisent? Oui, je ne prends pas le pari de Pascal. Est-ce que ces traditions, je crois que le pari de Pascal, c'est la transposition des traditions religieuses dans une perspective, voyez, critique et mathématique des possibles. Je ne peux pas bâtir ma vie sur un possible, sur une réalité que je mets possible. Les traditions religieuses impliquent un jugement d'existence. Ce sont des hommes qui ont bâti leur vie là-dessus. Et je dois essayer de comprendre la grandeur de ces hommes. La grandeur d'un Socrate, la grandeur d'un Platon, la grandeur d'un Aristote. La grandeur d'un Plotin et la grandeur dans les traditions judéo-chrétiennes des saints, une Jeanne d'Arc, puisqu'on est dedans, une Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc, est très actuel, vous savez, est terriblement actuel. Mettez ça dans les mains d'un positiviste. C'est peut-être par là qu'on peut l'atteindre. Parce qu'il y a une telle sympathie pour la petite Jeanne d'Arc. C'est vrai, elle est sympathique, elle a un plan extraordinaire pour nous aujourd'hui. On ne peut pas ne pas l'aimer. Et la petite Thérèse, l'enfant Jésus, c'est déjà différent. Tandis que Jeanne d'Arc, il y a une espèce de net. Humaine, il n'y a pas de bavure. C'est extraordinaire. Et en même temps, un sens de sa fragilité. Ce qu'on lisait hier au soir, c'est extraordinaire. Comme prudence. C'est merveilleux. Cette jeune fille qui habite avec des hommes et qu'on accuse. Et voyez la prudence qu'elle a eue quand elle répond. Tac au tac. Alors. Ça s'est envoyé au moins. Et ça, c'est le langage d'une femme vertueuse, d'une jeune fille vertueuse, qui nous montre ce que c'est que la prudence, ce qui nous montre ce que c'est que la chasteté, qui nous fait comprendre ce que c'est. Alors c'est net, pas de bavure. Je crois que on doit aujourd'hui, puisqu'on est un siècle de témoignages. Il faut situer le témoignage. Il ne faut pas en faire un absolu. Vous voyez, faire passer le témoignage avant la doctrine, c'est une bêtise sans nom. C'est l'été noir de l'intelligence. Et beaucoup font ça aujourd'hui. Hein. Alors, attendons les lendemains. moment-là, on verra que faire passer les témoignages avant la doctrine, c'est très grave. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas digne de la personne humaine. Mais comprendre la place du témoignage en attente de la doctrine. Parce que je n'ai pas encore une intelligence suffisamment adulte. Alors j'ai besoin des témoignages. Les témoignages, c'est, vous savez, tout ce qui vient aider un petit arbre d'être droit. On met des poteaux qui l'aident à se tenir droit devant les vents, les intempéries. C'est ça le témoignage. C'est une attente de la vérité. C'est une vérité toute proche de moi, que tout le monde peut comprendre. Vous voyez, c'est l'aspect démocratique du témoignage qui fait qu'aujourd'hui on ne prend plus des témoignages, parce que tout le monde les comprend. Avec la doctrine, tout le monde ne la comprend pas. Alors, parce que tout le monde ne la comprend pas, on la met loin. Mais en faisant ça, on abaisse l'humanité. Vous voyez, il n'y a plus la recherche de la vérité. Le témoignage qui nous est donné grâce aux traditions religieuses. Les traditions religieuses nous montrent les poteaux indicateurs. Vous voyez, je pense toujours à ça, vous savez, dans les pays de montagne, avant l'hiver, on met les poteaux indicateurs de la route. Parce que s'il y a une avalanche de neige, s'il y a des neiges étonnantes, on ne verra plus la route. Alors il y a ces poteaux indicateurs. C'est ça la tradition. Alors quand on vit des bousculades comme aujourd'hui, des ouragans comme aujourd'hui, s'il n'y a pas ces poteaux indicateurs, on ne sait plus où est la route, où est le chemin. Et vous voyez des quantités de personnes qui ne savent plus du tout où est le chemin. Ils ne savent plus du tout. Alors si on leur dit, eh bien vous allez découvrir par vous-même la métaphysique, hein, venez 3 ans là, à Saint-Jodard faire de la métaphysique, c'est très bien. On ne peut pas demander ça à tout le monde, c'est impossible. Si on peut le faire, on doit le faire. Pour la plupart des personnes, c'est situer exactement la valeur du témoignage au point de vue humain. Et pas gonfler le témoignage en disant le témoignage c'est tout. Non, c'est pas vrai. Le témoignage poteau indicateur. Les poteaux indicateurs ne remplacent pas la route. Quand la route existe, les poteaux indicateurs, c'est très important. Mais quand la route n'existe pas, il n'y a pas de poteaux indicateurs. Et la route, c'est la recherche de la vérité. Et les poteaux indicateurs sont là pour nous montrer. Quand il y a une recherche de vérité, la petite Jeanne d'Arc est merveilleuse. C'est étonnant. C'est quelque chose de grand. Quand il y a des poteaux indicateurs, le visage de Socrate est grand. Le témoignage de Jésus est grand. Or, je regarde comme un témoin parmi les hommes. Et si on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'il y a tout l'aspect historique entre deux qui fait que ce témoignage est lointain. On prend des témoignages actuels. Il y a des témoignages actuels qui nous servent de témoins et qui disent quand même quelque chose. Ce qu'a fait Bergson, et ça fait partie, vous voyez, de la prudence humaine. Et je crois qu'il faut montrer et pouvoir montrer avec beaucoup de force que la négation de ces témoignages chez un positiviste, c'est souverainement imprudent. L'homme vit constamment en s'appuyant sur les témoignages qui le permet d'attendre. C'est une attente qui soit suffisamment fort pour avoir une prudence éclairée par une sagesse. Se le dire, outil tous, la plupart des hommes sont incapables par eux-mêmes d'avoir une sagesse. Et dans les moments de tourmente, comme actuellement, dans les moments de bouleversement, de grande transformation, oui, on assiste à la fin de la culture chrétienne, presque dans tous les pays, pas dans tous, mais presque dans tous. Alors à ce moment-là, le témoignage est très très important. Alors, mais il faut le situer. Il n'y a rien de plus agaçant que de ramener tout au témoignage. Vous voyez ? Parce que c'est dire que l'homme est incapable par lui-même de... Et c'est le mettre en tutelle. Orpheline. pratique, l'art. C'est l'homme prudent qui découvre l'art comme un autre développement humain, qui n'est pas le développement prudentiel, qui est un développement parallèle. Et l'image que vous pouvez prendre dans une forêt de pins, quand vous voyez dès le point de départ quelque chose de parallèle, ça ne peut pas être parallèle, qui se développe. C'est très beau. Deux troncs qui se développent. Eh bien, je crois que dans notre « je suis » pratique, nous découvrons ce développement prudentiel, éthique, moral, enveloppé du témoignage. Et nous découvrons quelque chose de tout à fait différent. Le développement de l'art qui reprend aujourd'hui une force énorme.
Please.
et ça, ça devient le potentat, le tyran. Un tyran, c'est toujours l'artiste qui prend et qui veut prendre la première place et qui veut donner une sagesse artistique. Et c'est le grand danger d'aujourd'hui où il n'y a plus de vraie morale par le fait même, il n'y a plus de vraie politique. Il y a des artistes. Et qui, à la place de chercher le bien commun, cherche le bien d'une caste, d'un groupe d'hommes, d'un parti. Ce qui tue complètement le point de vue politique. Et ça, c'est l'artiste. L'artiste ne peut pas comprendre en tant qu'artiste, voyez, le bien commun. Parce qu'il est commun. Et l'artiste n'aime pas ce qui est commun. Il aime ce qui vient de lui en tant qu'artiste. Et il a raison en tant qu'artiste. Mais il faut comprendre que ce qui vient de lui n'est pas le bien humain. C'est un bien original qui vient de lui. C'est un bien individuel et personnel. Et si il met ce bien à la place du bien personnel, au grand sens du mot, l'amour d'amitié ou la recherche de la vérité, ça devient monstrueux. Il faut découvrir aujourd'hui, dans le « je suis », la place exacte de l'art. Autrement dit, répondre à Camus. Au point de vue philosophique, Camus a très très fort senti ça. C'est très dommage qu'il ait disparu artistiquement par un primat de l'art, un accident d'auto. Il avait son billet de chemin de fer dans sa poche. Tout était prévu pour qu'il prenne le train. Et un ami lui a dit « Mais non, tu iras plus vite. » Il a manqué un tournant, dérapé. Et Camus avait très bien saisi comment, dans un monde qui se laïcise, l'art prenait la première place et risquait toujours de prendre la première place. Et le jour où l'art prend la première place, c'est le tyran. Alors, il faut comprendre, vous voyez, la séduction de l'art chez les jeunes. Et que la séduction de l'art chez les jeunes est quelque chose de très important à comprendre. On ne peut pas le négliger. Mais on revient à ce que les anciens comprenaient, que toute éducation reposait sur la gymnastique. Toute éducation reposait sur la musique. Toute païdéa. Sur un fond humain. Et que le premier fond humain est artistique. Et on revient à cela. C'était plus facile chez les païens de dire ça parce que c'était en vue d'eux. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Parce que pour nous, c'est un champ de décombre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, toute la grande culture humaine dégringole et il reste des vestiges. Quand on voit des comme à Éphèse, quand on voit ce que pouvait être Éphèse, des ruines. C'est magnifique, ces ruines. Mais ce sont des ruines. Qu'est-ce qu'on peut édifier dessus? On ne va pas faire comme Viollet-le-Duc. Compléter ces ruines. Il manque un chapiteau. Faisons un chapiteau. On a au moins aujourd'hui le sens que la ruine, on la respecte. C'est quand même beaucoup, ça. On aime mieux voir. voir une ruine, ruine, que de voir un vieil le duc qui a ajouté un casque à poils au-dessus. C'est vrai, c'est très désagréable aussi, mais c'est un manque de respect, ça. Et c'est vrai, c'est un manque de respect de l'homme et de l'artiste. Gardons ce qui est important dans ces ruines. Et c'est beau, c'est grand, ce sont des ruines. Alors on risque de pleurer dessus et de perdre toute espèce de désir d'aller plus loin. Aujourd'hui, on doit redécouvrir l'art dans ce qu'il a de tout à fait original et propre et humain. On doit le redécouvrir. Et on ne peut pas construire sur des ruines. C'est ça la difficulté. C'est la très grande difficulté. Je comprends très bien l'attitude de certains qui pleurent sur ces ruines. Alors on pleure sur les ruines, mais ça n'avance à rien. Parce que l'art n'est pas fait pour qu'on pleure. L'art est fait pour maintenir une espérance, de maintenir un élan, de maintenir que l'homme est capable d'ajouter quelque chose à la création. Petite fille de Dieu. Alors, il ne faut pas que les petites filles de Dieu soient des rabougries. Ou soient une construction sur un art. On construit sur la nature et non pas sur l'art. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est la parole si forte d'Aristote. L'art imite la nature. On ne dit pas que l'art imite l'art. Ça, c'est la décadence. C'est le manque de virée, de force et du je suis. L'autonomie du je suis. Le je suis respecte la nature et construit dessus. Je respecte les ruines de mes ancêtres. Mais c'est un musée. Alors c'est intéressant de visiter les musées, ça fait partie d'une culture, ça fait partie du patrimoine et de la tradition. Il y a aussi une tradition dans l'art. Et ça, Malraux a très bien compris ce que c'était que le musée. Le musée, c'est la tradition artistique qui commence. Ça n'existait pas chez les anciens, il n'y avait pas de musée chez les Grecs. Le musée est une réalité très nouvelle. C'est le patrimoine qu'on garde parce qu'on vit avec des sauvages. Alors on garde le patrimoine et on le met sous vitrine. Et on n'a pas le droit de le toucher. Mais le patrimoine, vous voyez, quand il vient trop lourd, empêche la création, empêche la recréation, empêche la reprise. Exactement comme quand le témoignage est trop fort, il supprime la doctrine. C'est parallèle. Alors, les musées sont des témoignages. Il a existé 2000 ans avant Jésus-Christ, cette petite poterie. Merveilleux. Il a existé 2000 ans avant Jésus-Christ, ces petites déesses. Il a existé, et ainsi de suite, vous voyez. Sont des témoignages. Alors, en tant que témoignage, c'est merveilleux. Mais si le témoignage l'emporte sur la recherche de la vérité, c'est catastrophique. On mourra sous des ruines. Ces ruines sont trop lourdes à porter. Alors, il faut découvrir aujourd'hui dans le « Je suis » la place de l'art. Et pour cela, il faut reprendre le sens de l'artisanat. Le sens